Voilà plusieurs fois, frère, que vous passez dans notre église. Et c'est toujours, comme on dit chez nous, un coup de vent. Ça veut dire que ça va vite. Et je vous avais promis de vous appeler pour les vacances. Bon, voilà que je ne l'ai pas fait. Bon, mais voilà, vous êtes là. Vous êtes là, et d'autant plus qu'en préparant la prédication de ce matin, une petite voix intérieure me disait, le pasteur Wörth est là. Le pasteur Wörth est là. Il est où ? Le voilà. C'est le pasteur de l'Église protestante unie de France. Vous direz quelques mots de vous mieux que moi, mais je vous accueille avec un grand plaisir. Alors on va mettre le micro devant. On a une petite estrade pour être mieux vu, comme Jésus qui était dans la barque pour être mieux entendu. Frère, je vous accueille et je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à votre écoute. C'est un petit peu trop bas.
Un, deux, trois, en même temps.
Je vais mettre un petit peu plus près.
Un, deux, trois.
Un petit peu plus près.
Pour tester.
Oui.
Un, deux, trois. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ça va? Ok. Pourquoi j'ai parlé, essayé de parler en espagnol? Eh bien, ce matin, lors de mon culte personnel, j'ai lu un chapitre dans la Bible en espagnol. Parce que je suis en train d'apprendre l'espagnol. Ah. Je ne le parle pas encore, mais je suis en train d'apprendre. Pourquoi? Eh bien, bientôt, je vais, Dieu voulant, et je crois que c'est la volonté du Seigneur, partir pour l'Amérique latine. Plus précisément, le Chili.
Ah, on va vous mettre un micro.
Pas?
Moyen.
Non. Vous m'avez entendu? Ok. Merci beaucoup. C'est plus confortable pour ma bouche et vos oreilles.
Ça va?
Ça va comme ça? Oui. Alors, pourquoi je vais, dans 3 semaines, je pars au Chili? Eh bien, au Chili, il y a des choses, comme partout en Amérique latine, des choses qui se passent, qui sont inédites. Depuis 30, 40 ans, il y a un réveil pentecôtiste en Amérique latine qui est extraordinaire. Et dans certains pays comme le Brésil, on estime qu'environ 17-18% de la population a rencontré le Seigneur, est né de nouveau et maintenant est en train de louer le Seigneur, de servir Jésus-Christ et de propager l'Évangile qui effectivement se propage d'une manière exponentielle au Brésil, en Guatemala, dans d'autres pays et aussi au Chili. Alors pourquoi le Chili? Alors le pasteur Jackie, ce matin, a eu une petite pensée dans son cœur. Cela m'est arrivé aussi, et certainement à beaucoup d'entre vous aussi. Vous savez ce que c'est quand le Seigneur vous parle dans votre fort intérieur. Cela m'est arrivé il y a assez longtemps, c'était en 1976. J'étais en train de me préparer pour partir avec Jeunesse à Mission, participer à la campagne d'évangélisation à Montréal lors des Jeux Olympiques. Et avant de partir, il y avait une pensée dans mon cœur. Tu vas en Amérique latine. Cela ne s'est pas produit, mais maintenant, 40 ans plus tard, c'est en train de se réaliser. Et je veux louer le Seigneur parce que moi, j'avais oublié. J'avais oublié que le Seigneur m'avait mis cela à cœur. Et ce n'est que depuis quelques années, là, que j'ai fait quelques voyages là-bas, que ça m'est revenu. Et le texte aussi par lequel le Seigneur m'avait parlé. Donc voilà, je crois que j'y vais pour apprendre l'espagnol, participer à la vie de l'Église, voir ce qui se passe, afin de revenir en France et de témoigner de l'œuvre de Dieu en Amérique latine. Voilà un petit peu mon projet. Juste deux ou trois mots sur moi-même. Vous avez déjà remarqué mon accent. Je ne suis pas français de naissance. Je suis né aux Pays-Bas, donc la Hollande. Et je suis venu en France en 1981. Et je suis devenu pasteur de l'Église réformée, maintenant Église protestante unie de France. Et j'ai demandé à pouvoir prendre ma retraite un petit peu anticipée, justement pour pouvoir étudier ce qui se passe en Amérique latine. Voilà. Je suis marié, j'ai 5 enfants. Mon fils aîné est pasteur aussi. Et les autres enfants sont tous aussi enfants du Seigneur. Voilà, mais je ne vais pas trop parler de moi-même parce que quand on est au culte, le moment de la prédication n'est pas là pour parler de soi-même, mais pour faire parler le Seigneur, pour permettre à la parole de Dieu, malgré nous, nos défauts, nos manquements, de traverser à travers nous et de vous nourrir, d'apporter quelque chose à vous. Et ça peut se faire malgré moi, parce que l'Esprit de Dieu se sert des hommes et des femmes avec toutes leurs faiblesses, tous leurs défauts. Et justement, donc ce matin, j'ai lu un chapitre dans la Bible en espagnol, et je vais vous le lire maintenant ou en partie, mais rassurez-vous, je vais le faire en français. Alors c'est dans la Genèse, le livre de la Genèse, au chapitre 49. Genèse 49. Bon, j'ai lu tout le chapitre ce matin. Je vais voir ce que je vais faire maintenant. Genèse 49. Vous l'avez trouvé. Genèse 49, verset 1er. Jacob, vous savez qui est Jacob, hein, c'est un des patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. Jacob est devenu vieux et il arrive à la fin de sa vie. Jacob appela ses fils et dit, voilà, c'est bien là, oui, et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Non, je crois que ce n'est pas ça ce que j'ai lu. Non, non. Je crois que je me trompe. Non, c'est le 48. Si vous voyez, quand on n'est pas préparé, on se plante. C'est 48, chapitre 48. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph. Et vous connaissez Joseph? C'est le fils, un des 12 fils de Jacob. Et vous connaissez son histoire? Tout à l'heure, je vais peut-être le rappeler, Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Et il vit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël, c'est le nom de Jacob. Dieu avait donné un nouveau nom à Jacob en l'appelant Israël. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'a apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. » Bon, je vais arrêter là un moment. Vous connaissez cette histoire de l'apparition de Dieu à Jacob, à Luz. Alors, Jacob n'était pas un homme très recommandable. Il avait menti à son père. Son père, Isaac, voulait bénir son fils aîné, Ésaü. Jacob était le fils cadet. Et par toute montage, une sorte d'escroquerie, Jacob s'était accaparé de la bénédiction de Dieu, finalement, que Isaac a prononcé sur lui. Mais Ésaü, son frère aîné, bien sûr, n'était pas content et cherchait à lui faire mal, même le tuer. Donc Jacob a plié bagage, il est parti à Paddan Aram, un pays lointain, pour essayer d'échapper à la vengeance de son frère. Et il est en route. Et pendant son voyage, il y a une nuit où il dort, il a un rêve. Il va à une échelle et c'est Dieu qui est en haut de cette échelle. Il y a des anges qui montent et qui descendent. Il y a un lien avec cette échelle entre le ciel et la terre. Et c'est la première fois que Jacob, sans doute, a une rencontre avec Dieu. Et là, nous voyons quelque chose d'important. Nous pouvons naître dans une famille de croyants, de chrétiens, mais ça ne suffit pas forcément. Et Jacob a reçu là une vision, un rêve, une apparition de Dieu. Il a une rencontre avec Dieu, mais Dieu reste en haut. Dieu reste en haut de les ciels. Il a des anges qui descendent et qui montent, mais Dieu lui-même reste un petit peu lointain. Vous connaissez ça aussi, que nous pensons Dieu est tellement grand, tellement immense, tellement pur, tellement saint, et nous, nous sommes tellement petits et pas très purs, alors il y a une distance. Dieu est très haut et nous sommes plutôt très bas. Il y a une distance entre Dieu et nous. Et Jacob va continuer à vivre après cette rencontre, mais avec un Dieu qui est un petit peu lointain. Et Jacob continue à mentir. Il n'est pas encore vraiment transformé. Il va travailler pour son oncle Laban, un escroc lui aussi. Et les deux escrocs vont se faire concurrence. Mais puisque Dieu est avec Jacob, Jacob prend le dessus. Alors je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a là des hommes qui ne sont pas très nets, qui ne sont pas très honnêtes. Et pourtant, Dieu agit à travers leur vie, il les bénit. Alors, Jacob fait ici allusion à cette rencontre, à Luz, cette échelle. Mais j'aimerais insérer une autre histoire que vous connaissez. À un moment donné, Jacob se brouille avec Laban, son oncle. Et de nouveau, il doit partir. Quelle histoire ! Il doit fuir de son frère d'abord, et 20 ans plus tard, il doit fuir de son oncle. C'est vraiment une vie marquée par des crises et des conflits. Et Jacob est en route. Il quitte le pays de Paddan Aram où se trouve son oncle et il est en fuite avec ses femmes, il en a plusieurs, à l'époque c'était comme ça, et des enfants, il a des moutons et je ne sais pas quoi d'autre, c'est quand même toute une caravane qui est en route, et bientôt il va rencontrer son frère, après tant d'années, son frère qui lui devait, qui était fâché contre lui, son frère qui a voulu le tuer. Il va le rencontrer. Alors imaginez-vous, est-ce que ça vous est arrivé aussi que vous savez, demain, je vais passer un examen, passer par une épreuve, ou peut-être pas demain, après-demain, ou dans une semaine, ou dans un mois, m'attend une opération, je ne sais pas, je dois rencontrer quelqu'un et ça va être très difficile. Vous connaissez peut-être aussi ces expériences quand on est devant un grand défi où on ne peut plus tourner à gauche ni à droite et on ne sait pas ce qui nous attend, peut-être même la mort. C'est un moment de vérité dans la vie. C'est un moment d'épreuve. Je ne sais pas si vous avez vécu ce genre de choses. Mais quand ça vous arrive, alors vous ne pouvez plus tourner à gauche, ni à droite, ni aller de l'avant parce que Le danger est devant et derrière aussi, il y a des dangers. Qu'est-ce qui reste encore? C'est le haut. On regarde vers le haut et on se tourne vers Dieu. Et là, Jacob a à nouveau une vision. Et c'est plus qu'une vision. C'est Dieu qui vient lutter avec lui. Vous connaissez cette histoire auprès de Jabbok, un petit fleuve, que Jacob va appeler par la suite Peniel. Alors, il y a un homme, pendant la nuit, qui vient auprès de Jacob et qui va lutter avec lui. Et il se touche, c'est très physique. Il se touche beaucoup, c'est vraiment un combat, c'est une lutte. Il se touche de partout. Il se prend, peut-être qu'il se donne des coups, je ne sais pas trop. Et à la fin, l'inconnu, voyant que Jacob va gagner, cet inconnu le touche par le côté, et après Jacob marche comme ça. Il sera marqué à vie. Alors, la Bible permet d'identifier cet inconnu. C'est Dieu lui-même. Dieu avait descendu de cet ciel 20 ans plus tard. Et là, il a pris Jacob par son corps, il a secoué. Et nous, ça peut nous arriver aussi. Que le Dieu qui nous semble lointain se rapproche. Et ça peut être un combat, ça peut être une lutte, ça peut être un tiraillement, ça peut être difficile. Et après, on sera peut-être marqué, marchera peut-être un petit peu d'une manière boiteuse. Mais après cela, Jacob devient Israël. Jacob était un menteur. Israël est un homme appelé par Dieu, élu par Dieu, mis à part par Dieu, malgré ses mensonges, son hypocrisie, ses péchés. Dieu l'a choisi. Et Dieu a dit, tu seras Israël, tu seras le père d'une nation qui sera ma nation, la nation de Dieu. Je trouve cette histoire extraordinaire parce que Jacob, dans la suite de Genèse, on va voir, il va mourir, il est quand même triste par tous les malheurs qu'il a vécu, mais en même temps, je crois, il a vécu des choses merveilleuses parce qu'il a rencontré Dieu, il a d'abord vu de loin, ensuite Dieu est venu dans sa vue, dans sa vie. Et donc, ça a été physique, tellement proche. Et vous connaissez peut-être aussi cette expérience qui vous amène à dire, le Seigneur n'est pas seulement mon Seigneur, quelque part au ciel, mais par son esprit, il est là en moi. Je le porte dans mon corps, dans mon âme, je porte le Seigneur par son esprit qui habite en moi, qui habite en nous, l'esprit que Dieu nous a donné depuis le Pentecôte.
Très bien. Encore, combien de temps? Encore un peu, oui. Encore. Okay.
Vous savez, dans l'église réformée, quand je prêche, là, dans l'église réformée, le public, l'assistance, aime bien que vous ayez préparé votre sermon pendant la semaine, que vous ayez rédigé le texte. Donc, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire? C'est de lire mon sermon. Ici, je fais un exercice pour lequel je n'ai pas du tout d'entraînement. Parce que j'ai l'habitude de lire mon sermon devant le public. Mais je crois que le Seigneur m'appelle aussi à de nouveaux défis. On n'est jamais trop vieux pour vivre de nouvelles choses avec Dieu. Et je vous remercie de votre prière, de votre soutien. J'éprouve que le Seigneur est là avec nous. Alors, dans cette histoire de Jacob, dans la suite de ce chapitre, il va bénir les deux fils de Joseph. Peut-être que je peux lire quelques versets plus loin. Verset 14. Israël, donc c'est Jacob qui a un nouveau nom parce que c'est un nouvel homme. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune. Il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut une intention avec intention qu'il pose à ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa. D'ailleurs, Jacob était aveugle, hein, donc il faut le rappeler. Par l'âge, il n'avait plus de vue. Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère, cadet, sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il est béni ce jour-là. Ça m'a frappé que Jacob va bénir donc ses deux petits-fils, Manassé et Éphraïm. Et Joseph, le père de ses deux fils, pense selon les coutumes de l'époque. C'est le premier-né qui a le premier droit. C'est le premier-né qui va succéder à tous les honneurs de son père. C'est le premier-né qui va veiller sur l'ensemble de la famille. C'est l'usage à l'époque dans l'Orient. Et dans beaucoup de cultures, c'est comme ça en France. Je crois que ça a été comme ça aussi. Et Jacob, qui est aveugle, au lieu de bénir comme ça, il bénit comme ça. Il avait embrassé ses deux petits-enfants, donc il savait qui était qui. Donc quand il a croisé les bras pour changer l'ordre des choses, il le faisait en connaissance de cause, il le faisait exprès. Et cela est un rappel de ce qui s'était passé avant. Jacob lui-même était le cadet par rapport à Ésaü. Je vous ai raconté, je vous ai rappelé que Jacob avait volé la bénédiction que Isaac, leur père, voulait réserver à Ésaü. Donc par un mensonge, par une mise en scène vraiment malsaine, Jacob a trahi à son père. Il a volé la bénédiction que son père, à tort d'ailleurs, avait destinée à Ésaü. Vous me suivez là? Et ici, Jacob lui-même est en train de bénir. Il succède à son père, à lui, Isaac, et maintenant c'est à son tour de passer une bénédiction à la postérité. Et lui le fait consciemment. Il bénit le cadet avec la bénédiction qui, selon la coutume, était plutôt réservée à l'aîné. Qu'est-ce que cela nous apprend? Ce matin, sans savoir que j'allais partager ça avec vous, donc tout à l'heure, j'étais en train de méditer cela, et je me suis dit, ça montre quelque chose sur nos coutumes, sur nos familles, selon ce qui nous semble convenable. Dieu passe outre. Dieu ne prend pas toujours en compte ce qui nous semble la juste manière de faire des choses. Dieu se réserve le droit d'agir autrement, parce qu'il le peut. Dieu est souverain. Dieu n'est pas soumis à nos coutumes, à nous. Dieu est libre, Dieu est au-dessus. Dieu vient parmi nous. En Jésus-Christ, il est venu parmi nous. Et Jésus respectait les coutumes de son époque. Il s'en est servi. Il est entré dans cette réalité. Si aujourd'hui, il venait ici, il se promenait à Rennes en blue jean. Il s'adapte à la culture, aux coutumes qui sont secondaires, importantes, parce qu'un don de Dieu, nos cultures, nos coutumes, nos musiques, etc., sont des dons de Dieu, mais ne peuvent jamais être divinisés, être placés au-dessus de Dieu lui-même. Dieu est toujours le premier et le dernier, et Dieu est souverain. J'ai encore une, deux minutes ?
C'est bon.
Okay. Alors quand je dis Dieu est souverain, alors là, ça fait allusion aussi à mon arrière-plan calviniste. J'ai grandi aux Pays-Bas dans un milieu réformé très piétiste. Donc on priait avant chaque repas et à la fin de chaque repas. Et après le repas principal, donc soit à midi, soit le soir, ma mère ou mon père lisait un chapitre dans la Bible et avait un commentaire biblique à côté. Donc on lisait le texte du jour plus le commentaire rédigé par un pasteur. Et c'était un milieu très calviniste où le thème de la souveraineté de Dieu est très important. Et pour moi, encore aujourd'hui, ce thème est très important. Parce que nous avons parfois la tendance à mettre Dieu dans notre boîte. Nous avons une certaine manière de penser et Dieu vient vers nous, il s'adapte à nous. Mais du coup, nous mettons Dieu dans notre boîte. Et nous pensons, voilà, je connais Dieu, il est comme ça. Mais non. Au même moment qu'il est en train de s'adapter à toi, pour se rapprocher de toi, il fait la même chose avec un Brésilien. Et le Brésilien est en train de danser le salsa ou je ne sais pas quoi, et ça se passe différemment que chez vous. Et ce matin, j'étais frappé. Ici, on était calme, on était posé. Donc là, au Brésil, j'ai assisté à des cultes, alors ça bouge. Ça bouge beaucoup. Donc, si là, il y a un Brésilien dans ce contexte-là qui est en rencontre avec Dieu, ben, il pense que Dieu est comme ça, comme un Brésilien. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que Dieu est Brésilien. Alors moi, je dis oui, Dieu se fait Brésilien pour vous. Comme Paul dit, pour les Grecs, je suis un Grec, et pour les Juifs, je suis un Juif. Donc, pour nous, il se fait Français ou Français-Hollandais. Pour un Belge, il se fait Belge. Mais il est souverain, il est bien plus que cela. Il est au-delà. Et donc, je crois qu'il y a parmi nous peut-être des frères et sœurs tziganes. Donc, il a la mission évangélique tzigane, qui ont une autre manière aussi de louer le Seigneur. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est le même Dieu. Le même Dieu, mais qui est beaucoup plus grand. Mais qui, en Jésus-Christ, vient nous parler de notre langue. Quand il vous parle, il parle français. Quand il parle en anglais, il parlera en anglais. Dieu est comme ça. Il parle toutes les langues de la terre. Il connaît toutes les cultures et Dieu n'est pas gêné d'entrer dans ces cultures. Parce que ce qui l'intéresse, c'est nous. C'est l'être humain. Et quand il peut se rapprocher de nous en entrant dans notre langage, dans notre culture, dans nos coutumes, il le fera. Mais nous ne devons pas, par la suite, en tirer les conclusions que Dieu est comme ça. Et maintenant, on connaît Dieu. Non. Dieu est beaucoup plus grand que cela. Et là, donc, cette histoire de la bénédiction d'Éphraïm et de Manassé, ce matin, j'étais amené à penser ça. Que Dieu respecte nos cultures, nos coutumes, mais il se réserve le droit de faire autrement. Et donc là, il bénit le cadet au lieu de l'aîné. Est-ce qu'il la mérite? Je ne pense pas qu'il faut penser en ces termes-là. C'est juste parce que Dieu l'a voulu ainsi, je pense. Et vous aussi, quand vous êtes ici, heureux de connaître le Seigneur, est-ce qu'il y a mérite? Je suis sûr que vous êtes formidable. Mais je suis en train de prêcher, je ne suis pas ici appelé à vous flatter. Nous sommes tous pécheurs, nous ne méritons rien. Mais parce que Dieu est venu en Jésus-Christ, il nous a voulu. Il t'a voulu toi, il m'a voulu moi. Il nous a donné un nouveau nom, une nouvelle vie. Nous sommes nés de nouveau. Et du coup, nous appartenons à lui, tout en continuant en parlant français ou que sais-je comme langue. Donc Dieu est souverain et quand nous sommes ici, c'est grâce à lui. Ce n'est pas parce que nous sommes tellement bien, mais c'est parce que lui, il nous a appelés. Alors moi, et je vais terminer, parce que je crois quand même, vous commencez à être fatigués, c'est quand même quelque chose qui me tracasse depuis toujours. Alors oui, ça c'est pour souligner mes propos. Alors, vous savez, nous sommes ici parce que Dieu nous a appelés. Mais les autres, est-ce que Dieu ne les a pas appelés? Mais si, il a appelé tout le monde. Comme dit Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire tout le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu aime sauver chaque être humain. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant qui n'en témoignent pas? Pour qui cela ne semble pas être une vérité? Ça me tracasse. Et vous dites, oui, ils ne s'intéressent pas. Oui, mais moi j'ai connu des gens qui ont cherché. C'est mon propre père. Mon propre père qui était très pieux, il priait, il s'attendait à une expérience que vous connaissez, pentecôtiste. Moi aussi j'ai connu ça. Nouvelle naissance, baptême du Saint-Esprit, ce sont des expériences qui vous bouleversent. Et mon papa, à moi, aspirait aussi à cela. Il n'a pas reçu, il n'a pas vécu. Et ça m'a tracassé, ça me tracassera peut-être jusqu'à mon dernier souffle. Il y en a qui ne s'intéressent pas. Bon, ils ne s'intéressent pas. Mais il y en a qui cherchent. Et pourtant, ils ne semblent pas recevoir ce qu'ils espèrent. Quand je vous dis ça, je le dis quand même avec toute cette espérance dont j'ai déjà parlé. C'est Dieu est souverain. Dieu agit, mais je n'irai pas. Il faut quand même que j'ajoute ça, pour qu'on ne méprenne pas. Calvin a dit, Dieu veut les uns et ils seront certainement sauvés. Il y a d'autres qui ne veulent pas, qui ne sont certainement pas sauvés. Alors moi je dis non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne veux pas croire que Dieu a destiné des personnes à la perdition. Donc qu'est-ce qui reste? Une tension. Une tension qui est un défi. Pour vous et moi, c'est de croire, c'est de faire espérance, de ne pas prétendre tout savoir et en même temps de témoigner de ce qu'on sait. Et qu'est-ce qu'on sait? Que Dieu est là, que Jésus-Christ est vivant, que son esprit a été répandu sur la terre, dans vos vies et dans la vie de beaucoup d'autres. Alors, je termine avec ce que j'ai dit tout à l'heure dans la prière. Nous cheminons vers le retour du Seigneur. Qu'il vienne, que son royaume vienne. Maranatha, Seigneur, vienne, viens bientôt. Amen.
Amen. Merci, merci beaucoup. Je prie le Seigneur pour que ces paroles s'accomplissent. Voilà, mes frères vont venir. S'accomplissent en nous et que notre vision de Dieu dépasse nos étroitesses. Seigneur, merci pour ta parole, pour ta bénédiction qui se répand sur tous les habitants du monde, car ta bénédiction, c'est un appel à la vie avec Jésus. Merci pour le partage de l'Écriture sainte de ce matin avec notre frère. Que ta bénédiction nous accompagne tout au long de cette journée, de cette semaine. Nous te prions. Amen.